Pendant toute cette saison, nous parlons des histoires inspirantes. Et alors, j'ai bien réfléchi de quelle histoire inspirante j'avais envie de parler. Et j'avais plusieurs possibilités. Eh bien, d'abord le titre peut-être de ce que je vais partager avec vous ce matin. Se laisser transformer par l'amour de Dieu. Et je remercie, c'est Christelle. Alors, merci beaucoup parce que dans beaucoup de choses que tu as partagées avec nous ce matin, ça rebondit vraiment. Si je vais rebondir sur beaucoup de choses, merci beaucoup pour ce magnifique temps de louange. Voilà de qui je veux parler ce matin. Ah, est-ce que j'ai sauté une? Non. Alors, je vais revenir en arrière. Hop là. On est en année 1966 et c'est le voyage de noces de mes parents. C'est pas mal cette photo, hein? Elle fêtait vintage. Mon papa était décorateur intérieur ainsi que son frère, et son frère Étienne, pour leur faire une surprise, a tapissé la voiture. Même aujourd'hui, j'aimerais bien avoir cette voiture. Donc, imaginez, ils étaient partis en France, en voyage de noces en France. Mais en France, ça fait sensation, cette voiture. Il y avait toujours un groupe de personnes autour de cette voiture, à tout moment, qui regardaient ça en détail. Je veux parler de mes parents, parce que j'ai eu 51 ans pour les observer. Et j'aimerais dire que ce que je vois, ce que j'ai vu, parce qu'ils sont encore là, je vous montrerai la photo actuelle d'eux aujourd'hui, c'est une vie consacrée. Alors j'ai déjà à d'autres occasions parlé des parents qu'ils étaient pour nous, et j'ai remis en question beaucoup de choses qu'ils ont fait en tant que parents, et c'est beau parce qu'ils nous écoutent, vraiment, nous les enfants, quand on leur parle, ils nous écoutent. Mais ce matin, j'ai envie de parler des croyants qu'ils étaient. Les croyants. Et moi, j'ai pu observer une vie consacrée. Et pas un sprint juste sur la période où ils étaient missionnaires. Ils étaient missionnaires 16 ans. Mais une vie consacrée jusqu'à aujourd'hui. Ils ont la septantaine. Ils ont failli mourir les deux l'année passée. Ils ont pu, Dieu les a préservés encore. Mais voilà, une vie consacrée. Une flamme gardée allumée. C'est pas si facile, hein? Je connais des gens dans mon entourage qui étaient des pasteurs, qui ont démarré des grands mouvements, et aujourd'hui, ils posent plein de questions. Alors, la route n'est pas encore terminée, mais des fois, c'est pas si facile, hein, de tenir sur la longueur. Et j'aimerais honorer mes parents, parce que pour le moment, et je crois vraiment que ça, ils iront jusqu'au bout, avec cette flamme allumée, cette flamme gardée allumée. Il y a un deuxième point qui m'inspire beaucoup dans leur vie, c'est un caractère qui s'assouplit. Je sais pas pour vous, mais moi, la machine se crispe, elle se bloque comme ça. Je commence à avoir des sortes de sclérose dans mon caractère. Ça va pas vers l'assouplissement, tout naturellement. Pierre-Claude peut confirmer les choses. Et j'admire et je vais honorer mes parents aujourd'hui pour ce caractère qu'ils ont et les deux qui s'assouplissent avec les années qui passent. Et une humilité qui est là, d'être prêt de se remettre en question, en fait, avec les années qui passent. Et pour moi, c'est vraiment une histoire inspirante de les voir vieillir. Le passage de la Bible sur lequel j'ai envie de baser mon message se trouve dans Tite. Et la meilleure façon de vous parler de Tite, c'est peut-être d'avoir un coup de main d'une excellente... plateforme qui s'appelle The Bible Project. D'ailleurs, je vous encourage d'y aller. Ils vont nous faire un petit clip sur l'introduction de Tite. Donc, on aurait maintenant un clip qui nous parle, un résumé sur le livre de Tite.
La lettre de Paul à Tite. Tite était un disciple grec de Jésus qui a longtemps été pour Paul un compagnon de voyage et un collaborateur de confiance. Il avait par le passé aidé Paul à traverser certaines situations de crise. Et dans cette lettre, nous découvrons que Paul lui a confié la tâche d'aller en Crète, une très vaste île au large de la côte grecque, pour remettre de l'ordre dans un réseau d'églises de maison. La culture crétoise était notoirement connue dans l'Antiquité pour ses travers. D'ailleurs, l'un des mots grecs pour dire menteur était crétizo, être un crétois. Ces gens étaient tristement célèbres pour leur traîtrise et leur cupidité. La plupart des hommes sur l'île avaient servi de mercenaires à la solde du plus offrant et les villes de l'île étaient réputées dangereuses, en proie à la violence et à l'immoralité sexuelle. Cependant, l'île de Crète disposait de plusieurs ports stratégiques qui desservaient les villes de toute la Méditerranée antique, ce qui, du point de vue de Paul, faisait de la Crète le parfait endroit pour démarrer un réseau d'églises. Seulement, il se trouve qu'à un certain moment, ces églises sont tombées, on ne sait pas trop comment, sous l'influence de chefs crétois corrompus qui se disaient chrétiens, tout en dégradant la réputation des églises. Paul y a donc mandaté Tite avec la tâche de régler cette situation une bonne fois pour toutes sur la base des instructions contenues dans cette lettre. Lettre dont la structure lui donne un ton assez direct. Après une brève introduction, Paul donne des consignes claires à Tite concernant ses tâches pour cette église. Ensuite, il donne des directives concernant les nouveaux types de foyers et d'humanité que l'évangile pourrait créer au sein des communautés crétoises. Puis, Paul conclut la lettre avec les salutations finales. Alors, Paul commence d'abord par rappeler à Tite que son message, en tant qu'apôtre, porte sur l'espérance de la vie éternelle. Autrement dit, la vie de la nouvelle création, maintenant accessible par Jésus, le Messie. Et cette espérance est une promesse de longue date faite par le Dieu qui ne ment pas. Cette petite précision dès l'ouverture introduit un sujet important qui restera en toile de fond tout au long de la lettre. L'un des problèmes dans les églises crétoises était que les fidèles avaient calqué sur Jésus, le dieu chrétien, l'idée qu'ils se faisaient des dieux grecs avec lesquels ils avaient grandi, notamment Zeus, le chef de ces dieux. Les crétois se vantaient même du fait que Zeus était réellement né sur leur île. Et aimaient bien entretenir des mythes et légendes sur les secrets coupables de Zeus, qui séduisait les femmes et leur mentait pour arriver à ses fins. Alors pour Paul, une clarification était nécessaire. Le Dieu révélé par Jésus n'a absolument rien à voir avec Zeus. Il est totalement différent. Ses traits de caractère essentiels sont la fidélité et la vérité, ce qui implique que le mode de vie des chrétiens sera tout aussi empreint de vérité, un changement radical pour ces crétois. Et c'est la raison pour laquelle Paul confie une double tâche à Tite. Il précise que la première chose à faire est de nommer de nouveaux leaders pour chaque communauté chrétienne, une équipe d'anciens comme il les appelle, des hommes matures en tant que mari ou père et dont le mode de vie est totalement différent de la culture crétoise. Ils doivent être réputés pour leur intégrité, leur entière dévotion à Jésus, leur maîtrise de soi et leur générosité, aussi bien dans leur famille que dans la communauté au sens large. Ces nouveaux leaders doivent enseigner la bonne nouvelle de Jésus et remplacer les dirigeants corrompus qu'il faudra recadrer, ce qui est la deuxième tâche de Tite. Paul assimile ses prédicateurs aux défenseurs de la circoncision. En d'autres termes, ils étaient des crétois pratiquant la loi juive qui se disaient être des disciples de Jésus. Mais exactement comme en Galatie, ces personnes exigeaient que les chrétiens non-juifs se fassent circoncire et suivent les lois de la Torah s'ils tenaient vraiment à devenir des disciples du Messie juif. Ce que Paul résumait comme étant de leur part une obsession pour les mythes juifs et les commandements humains. Et pour couronner le tout, il n'accède aux fonctions d'autorité de l'Église que pour se faire de l'argent. Donc Paul, dans une habile manœuvre, se sert de la citation d'un ancien poète crétois, Épiménide, connu pour sa franchise et son honnêteté au sujet du comportement de son propre peuple. Il disait que les crétois ont toujours été des menteurs, des bêtes méchantes, des gloutons et des fainéants. Ils brouillent les limites entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal, et ne sont attirés que par l'appât du gain. Alors que ses dirigeants prétendent connaître Dieu, ils le renient par leur mode de vie crétois. Il est clair qu'ils doivent être réduits au silence, et c'est ce qui conduit Paul à la section suivante. Par la faute de ces dirigeants corrompus, plusieurs chrétiens de ces églises ont vu leur foyer et leur vie personnelle sombrer complètement. Ce que Paul illustre en trois différents points, mettant en évidence le résultat d'une telle situation. Le message de Jésus est discrédité, les non-chrétiens dans l'entourage ont désormais de bonnes raisons de dire du mal des chrétiens. Et tout cela rend totalement sans intérêt et peu attrayant l'enseignement au sujet de Dieu notre Sauveur. Paul dresse donc un portrait du foyer crétois idéal dévoué à Jésus. Il serait composé d'hommes et de femmes avancés en âge, débordant d'intégrité et de maîtrise de soi, qui serviraient de modèle aux jeunes. Et les jeunes femmes ne devraient pas coucher à droite et à gauche en évitant le mariage, comme c'était la tendance dans la Crète de l'époque. Au lieu de cela, elles devraient chercher des partenaires fidèles pour fonder des familles stables et vivre dans de saines conditions. Les jeunes hommes aussi devraient faire la même chose. Ils doivent être des citoyens réputés productifs et recommandables. Les esclaves chrétiens avaient en Crète un statut unique, car nous savons qu'en raison de l'évangile, ils étaient traités égal à égal dans les communautés chrétiennes de Paul. Cependant, le risque était qu'ils se servent de cette égalité comme un permis de désobéissance à leur maître pour ensuite prendre part aux rébellions d'esclaves, ce qui discréditerait davantage le message chrétien. Il est clair que cette nuance abordée par Paul est assez sensible, mais il est conscient du fait que l'évangile de Jésus doit manifester sa force rédemptrice dans la vie publique, si elle a réellement vocation à transformer la culture crétoise. Car cela ne se fera pas par des soulèvements populaires, ni par le fait que les chrétiens se désintéressent de la vie civile. Le message chrétien ne sera attrayant pour les Crétois que lorsque les chrétiens prendront pleinement part à la vie publique, quand leur vie et leur foyer seront en apparence similaires aux autres. Mais en y regardant de plus près, leur entourage découvrira que les chrétiens vivent selon un autre système de valeurs, de par leur dévotion à un Dieu totalement différent. Telle est la différence que Paul résume admirablement à la fin du chapitre 2. Il dit que le système de valeurs sur lequel repose le mode de vie chrétien est la grâce généreuse de Dieu, apparue en la personne de Jésus et qui réapparaîtra lors de son retour. Cette grâce a été démontrée lorsque Jésus a renoncé à son honneur pour souffrir d'une mort déshonorante afin de sauver et racheter ses ennemis. Et c'est cette même grâce qui a conduit le peuple de Dieu à refuser de céder au mode de vie corrompu, incompatible avec la générosité de l'amour de Dieu. Paul sort ensuite du cadre purement chrétien pour adopter une vision d'ensemble des chrétiens vivants comme une nouvelle catégorie d'humains dans la société crétoise. Parmi tous les individus, les chrétiens doivent se démarquer en étant des citoyens exemplaires, pacifiques, généreux, soumis aux autorités et connus pour rechercher le bien commun. Bien que cela soit très différent des valeurs avec lesquelles les Crétois ont grandi. Mais dans ce cas, comment les chrétiens sont-ils censés soutenir ce mode de vie contraire à leur culture ? Paul dit que la source de tout est l'amour transformateur du Dieu trinitaire, annoncé dans l'Évangile. Et il développe son propos à l'aide d'un très beau poème disant que « La bonté et l'amour de Dieu nous a sauvés malgré nous, afin que, par le Saint-Esprit, Dieu nous fasse passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance et renouvelle les peuples. » En Jésus, il a fourni un moyen pour que les gens soient déclarés juste devant lui. Tout cela ouvre la voie à la vie éternelle, c'est-à-dire à un nouvel avenir pour la nouvelle création. Cette histoire vivante est si puissante qu'elle peut produire de nouveaux types de personnes. Paul est convaincu que la fidélité aux enseignements de Jésus, renforcée par la puissance de l'Esprit, attira la grâce de Dieu sur toute l'île de Crète et dans le monde entier. Paul conclut en promettant d'envoyer des renforts à Tite, Artémas ou Tichique. Il salue ensuite leurs amis communs et la lettre se termine. La lettre de Tite nous présente la stratégie missionnaire de Paul qui consiste à faire des églises des agents de transformation au sein de leur communauté. Cela n'arrivera pas en générant constamment des chocs de culture, ni en s'assimilant au mode de vie crétois. Au lieu de cela, il invite ses chrétiens à prendre part de manière avisée à la culture crétoise. Ils doivent rejeter ce qui est mauvais, mais adhérer à ce qui est bon. S'ils peuvent apprendre à vivre en paix avec les autres en restant dévoués à Jésus et au bien commun, les chrétiens montreront, selon ses dires, la beauté du message de notre Dieu et Sauveur. Voilà ce dont il est question dans la lettre de Tite.
Beaucoup de choses, hein? Bon, je peux m'asseoir, c'est bon? C'est bon. J'aimerais me concentrer surtout sur, ben justement, comment se laisser transformer par l'amour de Dieu. Pour former donc cette nouvelle humanité dont il parle, hein? Comment accéder à cette vie nouvelle, à cette vie éternelle? Cette vie éternelle qui commence aujourd'hui et qui est vraiment disponible. La vie nouvelle, la vie éternelle, c'est pas juste ce qui se passerait après notre mort. Elle démarre maintenant. Quand je donne ma vie à Jésus, commence en moi la vie éternelle. Hein? Dieu prend très très au sérieux notre transformation intérieure. Il prend très au sérieux ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors c'est vrai, quand on donne notre vie à Jésus, on commence vraiment à être, on réalise toutes les choses qu'on peut faire pour Dieu. Et on a la fougue, on a le feu, on veut agir. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Il y a tout un travail de transformation qui démarre en nous et qu'on aurait jusqu'au bout, hein, à ce que cette transformation puisse faire en profondeur. Ça n'empêche pas qu'on s'engage pour Dieu, qu'on l'obéit, qu'on part dans le monde, qu'on parle autour de nous. Et en même temps, parallèlement, il y a ce travail de transformation. Cette tension toujours entre... Quand je donne ma vie à Jésus, Dieu me voit comme saint. Est-ce qu'il y a des saintes ici, des saints parmi vous? Qui est un saint ici? Tout le monde, levons les mains. Nous sommes tous saints, des saintes. Ça, c'est un fait. Quand Jésus nous regarde, quand Dieu nous regarde, il nous voit saints et saintes à travers le travail de Christ. Par le travail de Christ à la croix, je suis une sainte, n'est-ce pas chérie? Alors c'est très intéressant, pourquoi vous rigolez? Parce que la deuxième vérité, c'est ça, c'est que Dieu me voit sainte et il y a la réalité de ce travail de transformation qui continue dans ma vie. Et ce travail, elle est en route. C'est un grand chantier. Un grand chantier. Et voilà, il va être question de cela pendant ce temps. Je me suis amusée, dans un titre, de faire les listes. Est-ce que ça marche? J'avance, j'essaye d'avancer. Mais avance pour moi, Daniel, s'il te plaît. Voilà, la prochaine, s'il te plaît. Je me suis amusée à faire la liste. C'est impressionnant, tous les adjectifs qu'il y a dans ce titre. Et Dieu merci, voilà à quoi je suis prône. Voilà ce qui me narque tous les jours quand je me lève. Et ben voilà, Dieu merci, à la prochaine slide, on ne va pas tous les lire parce que c'est déprimant. Ben, la liste de tout ce que Dieu est en train de faire en moi est bien plus longue. Cette vie éternelle qu'il est en train de démarrer dans ma vie, cette nouvelle humanité, ce nouveau humain, cette communauté, nouvelle communauté d'humains, on est en route. Dieu est vraiment en chemin avec nous. Il est en train de nous transformer. Mais voilà, on est dans cette tension-là. Et voilà où on en est. Ce qui nous sauve vraiment, et je vais revenir sur... Ah ben voilà, mes parents aujourd'hui, voilà. Voilà. Ce qui nous sauve vraiment, c'est cette grâce dont hein, tu parlais souvent pendant la louange. Cette grâce de Dieu qui est venue, Simone, tu as parlé dans ta prière aussi, cette grâce de Dieu, cette grande générosité. Mais Dieu, en le relisant ce texte, ce magnifique poème, mais quand Dieu, notre Sauveur, a montré sa bonté, son amour pour les hommes, il nous a sauvés. Non à cause des actes justes que nous avons accomplis, mais parce qu'il a eu pitié ou compassion de nous. Il nous a sauvés par le bain purificateur de la nouvelle naissance en nous, renouvelant par le Saint-Esprit. Cet Esprit, Dieu l'a répandu avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, nous sommes déclarés justes par sa grâce. Nous devenons les héritiers de la vie éternelle, notre espérance. C'est magnifique parce qu'il y a toute la Trinité qui se met en route. Vous imaginez ça? Il y a Dieu, il y a notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, et il y a le Saint-Esprit. Il se met ensemble, il se met avec nous, ils sont de notre côté, ils sont en train de nous transformer. Et vous me connaissez, j'affectionne beaucoup The Message en anglais. Alors avec Pierre-Claude, on a essayé de faire une traduction de l'anglais, d'une paraphrase en anglais, lisons ce texte, la même texte, mais dans une autre traduction. Mais quand Dieu, notre tendre et aimant Dieu Sauveur, s'en est mêlé, il nous a sauvés de tout cela. Il a pris toutes les initiatives. Nous n'avons pas à lever le petit doigt. Il nous a donné un bon bain. Et nous en sommes ressortis un peuple nouveau, lavé dedans et dehors par le Saint-Esprit. Notre Sauveur a déversé la vie nouvelle si généreusement. Ce cadeau de Dieu a rétabli notre relation avec lui et nous a rendu nos vies. Il y a plus de vie en réserve, et il y a plus de vie en réserve, une vie sans fin. Vous pouvez compter dessus. Alors nous sommes qu'au début, hein? Et on réalise souvent tout ce qui ne joue pas encore, tout ce qui n'est pas encore terminé, tout ce chantier à l'intérieur de nous, souvent nous frappe beaucoup. Et Satan, il se donne bien de la peine de nous narguer avec ça. Il nous nargue, il dit, regarde où t'en es. Hein? T'es pas mieux que ça. Et c'est vrai qu'il y a cette bataille dans nos pensées. Mais Dieu nous déclare juste. Et il est notre tendre et aimant Dieu Sauveur qui vraiment travaille jour et nuit avec nous, en nous, pour nous transformer. Donc nous sommes un chantier en route, mais en même temps, nous travaillons pour Dieu. Nous sommes une nouvelle communauté d'humains. Et un agent de transformateur dans la société, mais voilà, il y a cette tension en nous. Alors l'école de caractère, là où Dieu va travailler notre caractère, c'est où? C'est dans les relations. On est mieux tout seul, hein, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce qu'on est tranquille tout seul en fait? C'est vraiment entouré par nos amis, les gens qu'on a choisis, hein, les gens qui nous ressemblent, qui nous admirent, qui sont d'accord avec nous. Disons, en parenthèse, les vrais amis, c'est ceux qui, des fois, nous secouent un peu de dire « Tu trouves c'est normal, ça ?» Mais voilà, c'est ça, souvent, c'est dans les relations que Dieu va nous changer. Et en dehors de ces amis qu'on met bien en place autour de nous, eh ben, Dieu, il se plaît à nous mettre dans des familles. qu'on n'a pas choisi. On a peut-être choisi le conjoint, mais au bout d'un moment, on réalise qu'il y a plein de choses dans le conjoint qu'on n'avait pas capté avant de l'avoir choisi. Et je le dis, ça va dans les deux sens. Hein. Au travail, on a choisi un travail et on ne réalise pas tout le truc qui arrive avec, toutes ces relations compliquées, toute cette passe temps qu'on passe en train de régler en fait tous ces problèmes du personnel ou entre personnes. Et puis à l'église, on a choisi l'église peut-être parce que voilà, il y avait des choses qui nous plaisaient. Et ben voilà, au bout d'un moment, on réalise, waouh, il y a encore quand même plein d'humains dans cette église. Des gens que peut-être, voilà. Et vous voyez, mais c'est justement là, dans toutes ces relations, que Dieu va travailler notre caractère. Et il travaille en nous, il nous prend très au sérieux et toutes ces différentes situations vont avancer son œuvre en nous. J'aimerais bien vraiment revenir sur deux passages d'un livre que Marianne m'a prêté, m'a fait connaître. En fait, c'est David Benner. C'est vraiment un livre que je découvre avec grand plaisir parce que le premier, il parle de l'abandon, surrender to love, c'est s'abandonner à cette généreuse amour de Dieu. Et ce deuxième qui est The Gift of Being Yourself, c'est comment vraiment oser être soi-même, comment faire face à tout ce qui est contraire à l'intérieur de nous. Et donc il y a deux points, il y a vraiment deux étapes. La première étape, c'est d'être convaincu de l'amour inconditionnel pour moi. Qu'il m'aimera, je ne sais pas qui était là au week-end, Esther a donné un très beau témoignage. Elle a parlé du péché avec lequel elle se bat et elle a dit, ce que j'ai appris, c'est que finalement, plutôt que de me cacher de Dieu, mais je viens à lui avec ce péché. Et il m'accueille avec tellement de générosité, avec tellement d'amour, avec tellement de compassion, sans que ça, c'est vraiment la première étape, d'être convaincu de cet amour de Dieu. L'amour intarissable de Dieu est la seule chose qui peut nous combler complètement. L'amour est notre identité. L'amour de Dieu est notre appel. Nous sommes des enfants de l'amour, créés par l'amour, de l'amour et pour l'amour. Notre existence ne fait pas de sens en dehors de l'amour de Dieu. Quelle expression voyez-vous sur le visage de Dieu quand il vous voit ? Quand vous êtes seul en tête à tête avec Dieu, quelle expression pensez-vous Dieu il a sur son visage quand il vous accueille? Et cette expression-là, on dit long sur qui est-ce qu'on croit vraiment Dieu il est. Pendant longtemps, je voyais un Dieu exigeant qui était fatigué par tous mes péchés, qui était un peu ouf. Et de réaliser aujourd'hui ce Dieu accueillant, qui me remercie de venir à lui au milieu du moment où je suis en train de pécher. Hier, pour vous donner un exemple très concret, j'ai invité quelqu'un de venir chez moi et je me sentais très généreuse, j'étais fière de moi. J'ai dit, tu es bien ma fille, tu invites cette personne chez toi. Et au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'il y avait quand même une sorte de petit agenda là derrière. Il y avait des attentes. En fait, j'avais envie de frimer. J'avais envie que cette personne vienne chez moi et pour un peu frimer. Et maintenant, ce que je apprends à faire, parce que je ne le fais pas chaque fois, c'est de directement venir à Dieu avec ça. Et déjà lui dire, merci Dieu, mais c'est même toi qui me l'as révélé. C'est moi, c'est pas moi toute seule qui a trouvé ce péché dans A. C'est ton Saint-Esprit qui aime habiter en moi qui m'a révélé cette chose. Donc quand Dieu en personne me révèle mon péché, pourquoi me cacher? Et faire semblant mais non, tombons-nous, jetons-nous dans les bras bienveillants de Dieu qui veut à son tour dire, et ça aussi je t'ai déjà pardonné, mais ça me fait plaisir quand tu viens et tu le confesses encore une fois, je suis vraiment heureuse, viens ma fille, viens. Et là c'est ce deuxième point dans ce livre qui dit, chaque fois que je rencontre Dieu dans la vulnérabilité de mon péché et honte, je connais mieux l'amour de Dieu. Chaque fois que je récidive dans l'auto-réparation et j'essaye de faire semblant, je connais moins bien l'amour de Dieu. Je connais uniquement l'amour divin, inconditionnel, radical, téméraire de Dieu quand j'ose approcher Dieu tel que je suis, plus j'ai le courage de rencontrer Dieu dans la faiblesse, plus je me sais aimé profondément de Dieu. Alors vous avez envie de découvrir plus l'amour de Dieu? Ça vous fait envie? Eh bien, venez quand vous êtes au plus bas. Parce que c'est vraiment là qu'il va vous accueillir avec une tendresse, une générosité, une espérance qu'on n'a pas pour nous-mêmes. Mais lui, il a l'espérance pour nous. Et il nous accueille vraiment sans accusation, mais avec beaucoup de générosité. Il enlève notre honte, hein, comme tu disais, Simone, dans ta prière. Vraiment, il couvre notre honte avec sa bienveillance. « Je suis l'enfant de Dieu », nous en avait chanté. « Son sang coule dans nos veines. » Tout ça, c'est vrai. Il y a à la fois toutes ces réalités sur nous. Hein, son sang qui coule dans ses veines et ce péché qui est constamment là quand même. « Je suis juste, je suis sainte. » Et en même temps, il y a cette transformation en continu. Voilà. Donc voilà, toutes ces vérités juxtaposées. C'est complexe, hein? Mais voilà, Dieu nous invite avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de générosité, avec beaucoup d'espérance pour nous, parce que c'est son œuvre, c'est lui qui veut l'accomplir en nous. Alors, je ne sais pas si j'ai encore un slide. Non. Moi, ce que je vais faire, c'est juste prier. Je vais faire peut-être d'abord une pause, que vous puissiez peut-être entendre aussi le Saint-Esprit, pas seulement vous convaincre du péché, mais surtout ce Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous rappelle tout son amour, toute son implication concrète dans la personne que je suis en train de devenir et toute son espérance pour nous. Majesté, ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Je peux être honnête avec toi, Seigneur, parce que ton amour et ton accueil est complet et entier. Tu n'as pas froid aux yeux. Quand tu me vois arriver en lambeau avec ce que je suis, tu m'accueilles les bras grands ouverts, comme ce papa qui accueillait son fils prodigue, qui rentre. Voilà, tu es ce Dieu-là. Sois loué, sois adoré, papa, pour ton grand amour. Merci. Merci pour ta grâce infinie. Tu es grand, tu es beau, tu es magnifique. Loué sois-tu, Seigneur. Et continue ton œuvre en nous. Continue, s'il te plaît. S'il te plaît, continue ton œuvre en nous. Et merci parce que tu nous vois saints, saintes. Amen.